Il est 7h.
Nous savons que le moment des repas sur les lieux de travail est forcément une source de risque. J'ai donc demandé à la ministre du Travail d'établir un protocole significativement renforcé pour la restauration collective en entreprise.
Éviter la cantine et manger seul. Les dernières recommandations du gouvernement pour éviter la contamination sur le lieu de travail. Un plan d'action sur le télétravail sera aussi demandé aux entreprises. L'accélération sur la vaccination. Faut-il revoir les publics cibles ? Requête, notamment des enseignants. Dans ce journal aussi, des mères de famille mobilisées contre la violence des jeunes. Les constructeurs chinois à l'assaut du marché de l'électrique en France. Et le jeu vidéo, désormais première source de revenus de la FIFA. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et que faire de la dette Covid, la dette du quoi qu'il en coûte, l'annuler, la rembourser, mais comment ? Le débat est lancé.
Ce sera suivi du regard international de Vincent Hervouette, de l'édito sport de Virginie Fulpin. Et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je ne sais pas depuis quand date votre dernière bamboche.
Oh là.
Peut-être vous êtes retrouvé à la queue leu-leu, je ne suis pas là pour juger, mais pour vous dire d'où vient cette expression à la queue leu-leu.
A tout à l'heure Stéphane. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un espace devenu Eldorado pour certains après de longs mois de travail à distance. Pourtant, la vie au bureau risque encore de perdre en convivialité avec ce nouveau protocole sanitaire présenté hier soir par le gouvernement aux partenaires sociaux.
La recommandation, Olivier Samin, c'est de manger seul et d'éviter la cantine en entreprise.
Oui, le déjeuner à la cantine avec l'afflux qu'on connaît à certaines heures n'est plus la solution privilégiée. Le gouvernement recommande plutôt un système de panier à emporter que les salariés viendront récupérer et qu'ils seront invités à consommer à leur poste de travail. Consommer de préférence seul. Si ce n'est pas possible, une distance de 2 mètres devra être impérativement respectée avec les collègues et le déjeuner en vis-à-vis sera de toute façon proscrit. Manger au restaurant d'entreprise sera toujours possible, mais l'employeur devra adapter systématiquement les plages horaires pour éviter que trop de monde arrive en même temps. Et dans le restaurant, dont la jauge ne bouge pas, 8 mètres carrés par convive, la solution privilégiée sera là aussi le repas pris seul, en laissant une place vide en face de soi et en respectant strictement la règle des 2 mètres de distanciation avec les autres personnes. Autant dire que les conversations seront limitées.
Rappelons qu'il y a encore un peu plus d'un mois, il était interdit de manger à son poste de travail, mesure assouplie par décret à cause du Covid.
Inquiet des contaminations en entreprise, toujours d'ailleurs, le gouvernement appelle aussi à la mise en place de plans d'action pour favoriser le télétravail dans les 16 départements soumis à de nouvelles restrictions. La semaine dernière, restrictions résumées en un slogan par le gouvernement qui lance cette campagne, « Dedans avec les miens, dehors ». En citoyen.
Le gouvernement qui change de braquet sur la vaccination. Dès la semaine prochaine, de grands centres d'injection dans les stades ou des palais des congrès seront mis en place dans toute la France.
À la faveur d'une accélération des livraisons de doses, dans le même temps, de nouvelles professions, dentistes ou vétérinaires pourraient être autorisés à vacciner. Dans ces conditions, pourquoi ne pas élargir la liste prioritaire établie pour cette campagne vaccinale ? Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Certaines professions le réclament déjà à l'image des enseignants.
Oui, avec 2000 classes fermées et des contaminations en nette hausse, passant en une semaine de 9000 élèves infectés par le coronavirus à 15000, plusieurs syndicats réaffirment la volonté de vacciner rapidement les professeurs. Entre les absences à répétition des enseignants touchés par le Covid, le brassage trop important des élèves et les cantines encore ouvertes, Guylaine David, porte-parole du SNU-IPP-FSU, ne voit qu'une solution.
La vaccination fait partie de ces mesures de protection. On sait que lorsque les personnels des écoles seront vaccinés, il y aura une forme d'immunisation. On ne se posera plus la question de la contamination en milieu scolaire.
Avec près de 50% de vaccins livrés en plus en avril par rapport au mois de mars, d'autres professions comme les caissiers, les employés dans le transport, les aidants à la personne, pourraient-elles devenir prioritaires ? Le professeur Gilles Pialou, chef des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, y est favorable.
Évidemment, les professions exposées, c'est essentiel pour maintenir ces activités et c'est essentiel aussi pour contenir la circulation du virus. Il y a des professions qu'il faudra vacciner en priorité dès lors qu'on aura assez de vaccins, ce qu'on espère pas trop tard.
Mais pour le moment, le gouvernement ferme la porte. On s'en tient au calendrier vaccinal, confirme un ministre.
Précision signée Victor Dolande.
En Allemagne, après 12 heures de négociations avec les présidents des Länder, heure, Angela Merkel annonce de fortes restrictions pour les 5 jours du week-end de Pâques. Magasins fermés, rassemblements interdits, offices religieux annulés. On va y revenir tout à l'heure à 8h.
Un récit des violences en zone police. Ces documents dévoilés ce matin par le Figaro. Des synthèses quotidiennes de la sécurité publique qui confirment la banalisation de la violence chez les jeunes. RICS, agressions, règlements de compte devenus quotidiennes. Pourtant, sur ces terrains en proie au débordement, des initiatives voient le jour à l'image de cette brigade des Daronnes à Villeneuve-Saint-Georges, dans le quartier sensible des Bois-Matards. Des mères de famille qui se mobilisent. Reportage de Justin Morin pour Europe 1.
Dans ces moments, j'ai énormément de douleur en tant que mère. Des enfants mineurs, je me dis où on va.
Fanta Macalou évoque la mort des deux adolescents en Essonne, les larmes aux yeux. Au fond, elle sait que cela aurait pu arriver à l'un de ses quatre enfants. Alors pour l'éviter, elle a mis en place une conversation WhatsApp avec une trentaine de mamans du quartier. Des mères vigilantes qui, au moindre soupçon, donnent l'alerte. Celle-ci date de la semaine dernière.
Il y a un problème dans la cité. Il y a les jeunes qui sont en embrouille là, juste à côté de chez nous. Allez, je vais descendre là pour les calmer un peu.
Donc voilà, finalement, il y en a plusieurs qui sont descendus. Les jeunes, ils sont partis. Il n'y a pas de remède miracle en fait. Moi, je tire mon chapeau aux mamans qui traînent dehors la nuit, qu'il pleut, qu'il neige. Nous, on leur respecte, ils nous respectent. Et on voit le résultat aujourd'hui.
Le résultat de ces maraudes nocturnes mises en place depuis 2 ans, c'est quasiment plus aucun problème de violence dans la cité. Un couvre-feu à peu près respecté et un lien avec les jeunes en difficulté. Dansira et Adriana tentent désormais d'inciter les mamans des communes voisines.
Une mère de famille, tu ne peux pas rester la bras croisée.
Tout le monde peut le faire. Il faut que chacun se mobilise.
Et même si cette paix sociale reste fragile, elles sont persuadées d'avoir sauvé certains jeunes de la délinquance.
Des baisers forcés, une jupe soulevée en public. Il a reconnu des images scandaleuses. Les regrets de Pierre Ménès sur C8 hier soir. Le chroniqueur foot de Canal pointait du doigt après la diffusion d'un documentaire sur les femmes dans le journalisme sportif.
Et on va en reparler avec Virginie Fulpin, l'édito sport, dans une dizaine de minutes. 7h07 sur Europe 1. Leurs noms nous sont pour l'instant inconnus. Mais les constructeurs chinois s'invitent les uns après les autres sur le marché automobile français. Une déferlante sur laquelle on va s'arrêter avec vous, Aurélien Fleureau. Bonjour.
Bonjour.
Vos explications dans un instant. Mais d'abord ce matin, direction Pékin, où la priorité a été donnée à l'électrique. Les ventes pourraient augmenter de 40% cette année. Le reportage de Sébastien Lebelzik.
Les concessions automobiles se font une concurrence acharnée le long du 5e périphérique au nord de Pékin. Des centaines d'acheteurs font le tour des derniers modèles, tous des véhicules électriques. Parmi eux, Jin, qui est à la recherche de sa première voiture.
L'électrique, c'est l'avenir pour les gens comme moi qui doivent aller au bureau tous les jours sur de courtes distances. Les marques chinoises sont plus adaptées à nos habitudes. Au niveau du prix, c'est plus raisonnable et pour la durée des batteries, tout le monde est au même niveau.
La Chine est le plus grand marché automobile du monde et la voiture électrique y fait la course en tête à coups de subventions. Plus d'une centaine de marques chinoises sont apparues ces dernières années, comme l'explique Dexter Song, analyste du secteur automobile.
Les ventes sont poussées par les nouvelles normes en matière d'environnement. Ça commence à donner des résultats avec des véhicules plutôt de bonne qualité, mais il y a encore des marques qui ont du mal à trouver leur place sur le marché. À l'avenir, je pense qu'il y aura de moins en moins de soutien de l'État.
Alors on se dépêche pour profiter des aides et des avantages fiscaux reconduits pour 1 an. Plusieurs grandes villes de Chine ont également interdit les ventes de véhicules thermiques, donnant un sérieux coup d'accélérateur à l'électrique. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Aurélien Fleureau, c'est justement sur cette offre électrique que veulent s'appuyer ces constructeurs pour s'installer en Europe et notamment dans l'Hexagone. Aujourd'hui, combien de ces groupes chinois sont présents en France ?
Il y en a 4 pour l'instant. En Europe, il y en aura 13 avant la fin de l'année. Pour l'instant, en termes de vente, cela ne représente pas grand-chose sur le marché européen. Un peu plus de 10 000 voitures chinoises vendues en 2020, mais ce sera 10 fois plus en 2025, selon les prévisions de Lorraine Morard, analyste pour IHS Markit.
On peut s'attendre à une accélération de la présence des marques chinoises, notamment parce qu'elles vont avoir une stratégie d'électrification qui va être à bas coût, de proposer des véhicules électriques avec une bonne autonomie de batterie à des prix qui vont peut-être défier toute concurrence. Mais ça va être aussi de communiquer, de rassurer. C'est vrai que c'est des marques qu'on ne connaît pas.
Et justement, ces voitures, que valent-elles et combien coûtent-elles ?
Alors, il ne faut pas s'attendre à du low cost. Pas de voiture à 10 000 euros. Le positionnement est plutôt similaire à celui d'un Huawei dans le domaine des smartphones, du premium. Ces voitures sont des concentrés de technologie, principalement des SUV 100% électriques dans les 38 000-40 000 euros. Mais le prix peut vite diminuer avec les différents bonus.
Ça reste donc un peu moins cher, si je vous suis bien, que d'autres voitures électriques type Tesla. On imagine forcément que ça inquiète la concurrence occidentale.
Oui, car leur présence n'est clairement pas un ballon d'essai. Heyways a par exemple choisi d'installer une filiale en Allemagne. Vous allez voir arriver cette année sur le marché européen des marques comme Xpeng, Lucid ou NIO. Et je peux vous dire que les constructeurs français regardent ça de très près. Un grand patron m'a confié d'ailleurs qu'il s'attendait à une déferlante de voitures chinoises.
Alors à l'heure actuelle, ces marques, elles n'ont pas de concession. Comment se vendent-elles ?
Alors, il y a plusieurs stratégies. Vous avez par exemple MG, marque britannique historique connue pour ses voitures sportives. Eh bien, elle est désormais 100% chinoise et elle est en train de réussir sa renaissance en proposant des SUV 100% électriques grâce à un réseau de distribution d'une soixantaine de points de vente en France. Mais il y a aussi la stratégie choisie par Heyways. Alors là, c'est différent. C'est une start-up chinoise qui n'a que 4 ans d'existence. Un modèle plus proche de Tesla. Tout se fait en ligne, sauf les essais de voitures. Là, on vous l'apporte à domicile. Serge Cometti est le directeur général de Car East France, une société créée spécialement pour accompagner l'arrivée de ces marques chinoises.
C'est le mode de commercialisation et c'est le business model qu'on a choisi d'implanter en France. Et donc c'est ce que le véhicule électrique aussi permet de faire, c'est de s'affranchir des contraintes traditionnelles de l'automobile et éviter d'obliger les clients à se rendre dans des points fixes, mais plutôt d'aller vers lui.
Et pour accompagner le client, eh bien des partenariats ont été noués avec des enseignes comme Feu Vert ou une jeune pousse niçoise, Gomecano, qui assure les réparations à domicile.
Les constructeurs chinois à l'assaut du marché automobile européen. Dossier signé Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Merci beaucoup Marion Calais, c'était le journal de 7h. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Il se présente comme sportif et entrepreneur. Alors vous connaissez peut-être l'ancien champion du monde de roller, Tiger Chris. Vous vous souvenez peut-être de ses sauts, notamment depuis le premier étage de la Tour Eiffel ou du Sacré-Cœur. Eh bien, il se lance dans une drôle d'aventure. Concurrencer Instagram, WhatsApp, oui, lui, le petit français, avec un vrai discours sur l'absence de réseaux sociaux en Europe. C'est l'invité du Tête-à-Tête Europe Matin, 7h40 tout à l'heure. Tout de suite, l'éclairage éco Nicolas Barré avant le regard international de Vincent Hervouette.
Oui, les élections d'Israël aujourd'hui, on va mesurer l'effet Covid, voir si l'électeur est reconnaissant à Netanyahou d'avoir été vacciné ou s'il trouve ça normal que l'État protège le citoyen.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos. Que faire de la dette Covid ? La rembourser ? L'annuler ? Bruno Le Maire veut couper court au débat.
Oui, vous savez, tout le monde est à peu près d'accord sur un point. C'est cette dette que nous avons accumulée pendant la crise sanitaire. On peut en quelque sorte la mettre à part parce que cette crise nous est tombée sur la tête. Il a fallu y faire face. Et c'est ce qui a fait exploser cette dette de 100 à 120% du PIB. En gros, on se retrouve avec 400 milliards d'euros de dette en plus. Alors, la mettre à part, d'accord, mais pourquoi faire ? Certains voudraient en profiter pour l'annuler d'un trait de plume, d'autres disent au contraire qu'il faut la rembourser en créant une taxe spécifique, comme on l'a fait avec la CRDS, vous savez, cette taxe pour rembourser la dette de la Sécu.
Le trou de la Sécu, oui. Alors Bercy ne veut aucune de ces deux solutions.
Non, pas de taxe nouvelle, ça Bruno Le Maire l'a catégoriquement exclu, mais pas question non plus de ne pas rembourser, ça ce serait pas sérieux. Alors que faire ? Le ministre des Finances a proposé hier devant les députés une troisième voie qui consiste en fait à réserver une part des impôts existants pour rembourser ce surcroît de dette, mais pas tout de suite. Seulement lorsque l'économie ira mieux, que la croissance sera un revenu et donc qu'il y aura plus de recettes fiscales. C'est là l'originalité de la proposition. L'argument de Bercy consiste à dire qu'il ne faudrait pas assommer la reprise qui va venir avec ce fardeau de dette à rembourser.
Oui, mais le fardeau, il est toujours là.
Alors oui, mais l'idée c'est de donner un gage de sérieux et de crédibilité aux investisseurs du monde entier, dont on doit absolument conserver la confiance pour pouvoir continuer à se financer dans de bonnes conditions. Cette dette du quoi qu'il en coûte, nous la rembourserons, j'allais dire, quoi qu'il arrive, puisque nous nous engageons à y consacrer une fraction définie à l'avance de nos recettes fiscales. Plus largement, en fait, ce qui nous manque en France, c'est d'être capable de programmer également nos dépenses publiques sur plusieurs années. Et ça, ça aussi, ce serait un gage de sérieux, une sorte de règle d'or qui permettrait d'éviter les dérives des comptes publics d'année en année et de fixer le rythme de progression des dépenses pour la durée, par exemple, d'un quinquennat. Reste à voir si un candidat à la présidentielle serait prêt à s'engager sur une telle promesse de sérieux budgétaire et de s'y tenir. Bruno Le Maire pousse l'idée, mais ça ne s'est jamais vu.
Merci Nicolas Barré. Alors, on vient de s'intéresser à la dette Covid, l'épargne Covid avec Nicolas Bétou tout à l'heure et ce débat très politique. Les Français ont épargné, faut-il taxer l'édito politique à 7h05. Et on retrouve Vincent Hervouette pour son regard international. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Les Israéliens votent depuis 6 heures pour renouveler la Knesset. Élections anticipées car le gouvernement de Benjamin Netanyahou n'a pas réussi à faire voter son budget. C'est la quatrième fois que les Israéliens retournent aux urnes en 2 ans seulement.
Oui, et ce n'est pas, sûrement pas la dernière fois, hein, Mathieu. Les derniers sondages donnent le Likoud en tête, mais loin de la majorité absolue, comme la dernière fois, comme l'avant-dernière fois, comme la fois d'avant, au printemps 2019. Le parti du Premier ministre devrait perdre quelques sièges, ce qui va rogner sa marge de manœuvre, donc réduire la possibilité de former une coalition stable. Et c'est l'un des paradoxes d'Israël. La vie politique est dominée depuis 20 ans par Benjamin Netanyahou. Les ministres qui ont tenté de le supplanter, ses rivaux, ses adversaires, il les a enterrés, on les a oubliés. Mais en même temps, comme pour compenser cette inoxydable stabilité, la proportionnelle intégrale engendre une campagne électorale permanente, un référendum pour ou contre Bibi sans cesse recommencé. Il l'emporte à chaque fois, mais sans jamais obtenir de blanc-seing.
Le Premier ministre ne va pas tirer profit des succès de la campagne de vaccination ?
Eh bien, il comptait sur l'effet Covid. Chaque électeur ce matin aura reçu au moins une dose de vaccin. Et on ne risque pas d'oublier la pandémie en allant au bureau de vote. Les mesures de précaution sont partout. On peut même voter derrière son volant comme au drive-in. Le retour à la vie normale se fait progressivement au fur et à mesure de la vaccination. Alors on peut avancer des tas d'explications à la réussite d'Israël. La cohésion de sa population, l'habitude de vivre sous la menace, son réflexe de faire front. Mais le gouvernement a fourni à temps des masques, des tests, des vaccins, ce qui prouve qu'il a su prévoir, négocier, s'organiser.
Les Israéliens trouvent cela normal.
Ben, ce n'est pas que le peuple soit ingrat, c'est que l'État est fait pour ça. Sa mission est de protéger le citoyen. C'est quand il trahit sa fonction que l'électeur se réveille. Après Tchernobyl, l'Union soviétique s'est effondrée. Après la débâcle de 40, la Troisième République en France a disparu. Bibi ne peut pas trop compter sur l'effet Covid, mais les gouvernements européens, eux, ont raison de le craindre.
Merci Vincent Hervouet, le regard international tous les matins sur Europe. Et tout de suite, l'édito sport de Virginie Fulpin.
L'onde de choc provoquée par le documentaire de Marie Portolano continue de faire des vagues, et tant mieux, mais attention à ne pas se tromper de débat. Hein. C'est un peu facile de ne mettre que Pierre Ménès sur le banc des accusés.
Ce sera juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La journaliste de Canal. Le journaliste de Canal+, Pierre Ménès, était dans Touche pas à mon poste hier pour tenter d'expliquer son comportement sexiste. Invité après son interview coupée au montage dans le documentaire de Marie Portolano, pour vous, il ne faudrait pas que le débat autour des femmes journalistes du sport se resserre autour d'un seul homme.
Je suis très gênée ce matin, gênée par la défense de Pierre Ménès qui ne voit pas en quoi c'est un problème de soulever la jupe d'une femme qui nous gratifie du fameux « on peut plus rien dire, on peut plus rien faire » et qui se pose en victime alors que c'est lui qui agresse les femmes depuis des années sur les plateaux. Les témoignages sont nombreux. Mais ce qui me gêne le plus, c'est qu'en 24 heures, on est passé des questions essentielles posées par le documentaire de Marie Portolano sur la place des femmes dans une profession à des attaques ciblées sur la seule personne de Pierre Ménès. Encore une fois, je préfère le répéter, son comportement à lui est inexcusable et il mérite d'être remis à sa place. Il l'a dit lui-même hier soir, c'est à peu près la seule phrase intelligible que j'ai entendue dans sa bouche lors de cette émission. Il ne faudrait pas se tromper de débat, Pierre Ménès n'est pas le responsable de tous les maux ressentis par les journalistes femmes dans les rédactions de sport. Il est un exemple parlant, édifiant, mais je trouve très gênant que toutes les critiques se focalisent sur lui, alors que c'est plutôt un système généralisé qui place les femmes dans une situation délicate. Ça ne sert à rien de taper sur un homme pour se donner bonne conscience, comme si ça allait régler tous les problèmes.
Ne s'intéresser qu'à son comportement à lui montre, pour vous Virginie, qu'on ne veut pas aborder la place des femmes dans le journalisme de sport.
Elles ont pris la parole dans un documentaire qui doit faire date, que chacun se pose la question de la place des femmes, du rôle qu'on leur attribue et des réactions à leur travail. Et je trouve ça assez symptomatique que même là, la parole leur ait été confisquée en 24 heures. Pierre Ménès fait partie du problème, il n'est pas le problème. Ça me semble plus intéressant de savoir pourquoi il a été protégé, pourquoi les gens autour de lui laissent faire et surtout totalement en dehors de lui, pourquoi les femmes sont si peu nombreuses, notamment au poste de décision, et pourquoi on s'intéresse plus à leur physique qu'à leur travail, par exemple. Là, on ne fait que mettre ces questions pourtant essentielles, celles que soulève le documentaire de Marie Portolano, de côté, pour un raid de critiques acerbes concentrées sur un seul homme. Je crois qu'on se trompe de débat et que ça n'était pas le but du film.
Merci beaucoup Virginie Fulpin. Alors ce documentaire, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, je ne suis pas une salope, je suis journaliste de Marie Portolano. Des femmes qui se sont illustrées dans le journalisme sportif ces dernières décennies, elles sont toutes là. Les anonymes, à présent, des femmes moins connues, mais qui se sont reconnues, vous les entendrez là dans le journal de 8h. Et à 8h15, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elisabeth Moreno, invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1, 7h23. C'est l'heure de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Retrouvons, voulez-vous, le temps de cette chronique, notre âme d'enfant. Pourquoi on utilise dans les cours de récréation, même à la fin d'une bamboche de tous les diables, quand il y en avait, l'expression « à la queue leu-leu ».
À la queue leu-leu, cela signifie être en file indienne. On le fait aussi, on dit être à la queue leu-leu.
Oui Mathieu, on sait, il paraît même que tout le monde s'y éclate. Mais avant d'être popularisé par Bézu, l'expression l'a été par Rabelais. Vous voyez, les grands esprits convergent. C'est au XIe siècle que tout commence. En ancien français, on pouvait allègrement se passer d'article. Comprenez que « à la queue le » est une simplification de « à la queue du le ». Ou autrement dit, c'est à la queue du le qu'on trouve le.
Wow.
Tout on a bien s'éclaircir. Fait de simplifier quand même.
Virginie, vous allez voir, tout va s'éclaircir, au moins je l'espère. Si je vous dis que le, c'est le loup.
Ah.
Difficile de contredire celui qui dit que c'est à la queue du loup qu'on trouve le loup. Bien avant la découverte des Amériques, le renard et le loup étaient très présents dans l'imaginaire populaire. C'est donc tout naturellement qu'on s'est d'abord mis à la queue le, puis plus tard, une fois les Amériques découvertes, mis en file indienne. Les louveteaux, comme les loups, aimant se déplacer l'un derrière l'autre pour plus de discrétion. Allez, n'oublions pas ces belles paroles. Tout le monde s'éclate à la queue leu-leu. Tout le monde chahute à la queue leu-leu. Tout le monde s'embrasse à la queue leu-leu. Je vous parle d'un temps qui, je l'espère, finira bien par revenir.
Oui, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est la chenille qui redémarre.
On connaît nos classiques.
On vous retrouve à 16h tout à l'heure, Stéphane.
Oui, on réunit l'anarchiste Louise Michel, figure de la Commune de Paris, dont on célèbre les 150 ans ces jours-ci. L'exploratrice et féministe Alexandra David-Nel et la comédienne Jane Fonda, célèbre pour ses VHS de Jim Tonic, mais surtout ses combats. Leur point commun, elles sont toutes les trois d'actives activistes.
À tout à l'heure, 16h. 7h25, dans quelques toutes petites secondes, Laurent Cabrol, la météo et un nouveau journal avec Sophie Echen. À tout de suite. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et quand l'hiver et le printemps se font une battle, en France, on dirait bataille ou une joute. Enfin, c'est exactement ce qui se passe. Nous avons ce matin des températures d'hiver et cet après-midi, des températures de printemps. Il fait moins 3 à Aurillac en ce moment, moins 2 à Orléans. Il y a des températures négatives, hein, à peine 2, 3 degrés Clermont-Ferrand et Lille, 3, 4 à Paris, 8 à Nice. Mais cet après-midi, nous aurons des valeurs de 13 à 17 degrés. 14 à Lyon, Caen, Dijon, Nevers, la capitale, 14 degrés, Poitiers, 15 à Valence, à Niort, à Saumur, 16 à Toulouse. Vous voyez des températures qui sont vraiment très très agréables et qui seront très agréables. Alors voilà, c'est cette joute qui va se jouer tout au long de la journée avec quelques nuages passagers qui seront là à l'endroit où nous avons des brumes et des brouillards aujourd'hui, c'est-à-dire dans le nord-est. Je ne vais pas cibler les régions et les villes parce qu'ils sont vraiment très épars. Demain, mercredi, ce sera la grande douceur, une très très belle journée. 17 à 20 degrés, ce sera la plus belle journée de la semaine. Jeudi, vendredi, ce sera moyen. Alors là, ça, une perturbation va tenter d'en pénétrer sur la France. Mais ensuite, samedi, le soleil va revenir. Bon, écoutez, si avec ça, vous n'avez pas le moral, les amis, je comprends rien. Voilà.
Demain, c'est la plus belle journée de la semaine. Moi, j'ai noté le rendez-vous. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h29 sur Europe 1. Nous sommes avec Sophie Echen. Bonjour, Sophie.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Un nouveau journal. Il est presque 7h30.
Certains occidentaux affirment que les Ouïghours mènent une vie misérable, qu'ils ne peuvent pas étudier leur langue et leur culture, qu'ils sont enfermés dans des camps et que...
Mais non, ce sont des fake news montées de toutes pièces par certains médias occidentaux.
Ça, c'est ce que diffuse l'ambassade de Chine en France sur Internet en riposte aux sanctions occidentales pour dénoncer le sort des Ouïghours. Dans ce journal, les EHPAD qui vaccinent les pensionnaires mais aussi leurs proches. Dedans, avec les miens, dehors, en citoyens, on décrypte le nouveau slogan du gouvernement contre le Covid. Et puis un chef-d'œuvre de Jean-Michel Basquiat aux enchères à Hong Kong tout à l'heure, guerrier estimé à plus de 40 millions de dollars.
Juste après ce journal, La Touche Âme, c'est Bertrand Chamerois avant le tête-à-tête Europe Matin avec l'ancien champion du monde de roller désormais entrepreneur Tae Chris qui se lance à l'assaut des GAFA. Dans 10 minutes, l'édito politique de Nicolas Bétou.
Que faire de l'argent épargné par les Français pendant le Covid, le taxer ou le donner, ce sera le débat politique du moment.
Et juste avant, Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h30 sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et d'un côté, les grandes puissances occidentales, de l'autre, la Chine. Au milieu, la situation des Ouïghours. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Union européenne s'unissent pour sanctionner Pékin, accusé de violation des droits de l'homme contre cette communauté musulmane. La Chine qui a aussitôt répliqué en s'en prenant à une dizaine de personnalités européennes. Jean-Jacques Héry.
Une action coordonnée de plusieurs États occidentaux pour dénoncer la persécution de la minorité musulmane ouïghour, c'est une première en matière de diplomatie internationale. Concrètement, 4 dirigeants chinois de la région autonome du Xinjiang où vivent les Ouïghours sont visés. Ils ne pourront plus se rendre sur les territoires européens, canadiens et britanniques où leurs avoirs seront gelés. De leur côté, les États-Unis ont sanctionné 2 d'entre eux. Mais la riposte chinoise a été quasi immédiate, confrontée à ce front commun inédit. Et pour ne pas perdre la face, la Chine a sanctionné à son tour 10 de personnalités européennes, dont le député européen Raphaël Glucksmann, très actif pour défendre les Ouïghours. Il est désormais persona non grata en Chine. Il se réjouit de voir l'Union européenne sortir de son silence.
Il me sanctionne parce que j'ai mobilisé l'opinion autour du sort réservé aux Ouïghours et du fait qu'ils soient enfermés dans des camps de concentration. C'est une forme d'honneur qui vous est rendue par une tyrannie. Alors ces sanctions, elles sont largement symboliques, c'est pas ça qui va faire plier Pékin. Mais il y a enfin un front commun et une réaction ferme.
Les mesures de rétorsion chinoises ont été jugées rapidement inacceptables par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell.
À la une ce matin, cette question. Alors que la pression continue d'augmenter sur les services de réanimation, faut-il élargir les critères d'accès à la vaccination?
Mais ce serait un pas de plus vers l'immunité collective. Dans les EHPAD où la vaccination va bon train, les familles de pensionnaires se positionnent pour recevoir une dose. Et c'est un phénomène qui se répand aux EHPAD car cela permet notamment de ne pas gaspiller les flacons entamés.
Oui, car chaque jour dans certains établissements, des proches de résidents demandent à bénéficier de doses restantes, une vaccination complémentaire qui s'organise. D'après Yann Reboulot, il dirige un groupe de 17 EHPAD.
On prépare une liste d'attente des gens qui nous ont signalé qu'ils étaient éventuellement intéressés. Donc quand vous n'avez plus de personnes présentant des comorbidités ou faisant partie des tranches d'âge prioritaires, évidemment qu'on va proposer. Il s'agit de ne pas perdre des doses.
Finir les flacons, mais aussi parfois s'affranchir un peu du protocole, comme cette directrice d'EHPAD.
Lors des commandes des doses de vaccination Pfizer, nous avions en tête de toujours avoir des doses supplémentaires de manière à pouvoir vacciner les familles des résidents qui étaient volontaires.
Car pour elles, vacciner les familles, c'est aussi protéger les résidents. Florence Arnaise-Maumet dirige le syndicat des EHPAD privés Sinerpa.
L'enjeu en ce moment, c'est de pouvoir vacciner l'intégralité de l'écosystème des EHPAD, c'est-à-dire notamment les familles qui viennent régulièrement pour avoir un taux d'immunité très important en fait.
Sans cette immunité, difficile d'assouplir le protocole sanitaire dans les EHPAD. Pour ces professionnels du grand âge, il est donc essentiel d'élargir la liste des personnes prioritaires au vaccin.
Zoé Pallier. Et puis les complémentaires santé vont rembourser les consultations de psychologues, alors que les situations de souffrance psy se multiplie à cause de la situation sanitaire qui n'en finit pas. Vous pourrez donc vous faire rembourser dans la limite de 60 euros par séance.
Après plusieurs jours de cacophonie autour des nouvelles règles sanitaires annoncées la semaine dernière, le gouvernement lance une nouvelle campagne pour clarifier ces mesures.
Et nous verrons bientôt ce nouveau slogan autour de nous, Jean-Rémy Baudot, dedans avec les miens, dehors en citoyen.
Oui, 2 phrases pour tenter de clore 4 jours de cafouillage. C'est Jean Castex lui-même qui l'a annoncé hier soir à ses ministres lors d'une réunion. Puisque le mot confinement est banni, l'exécutif propose donc ce nouveau slogan « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». Des règles claires et simples pour ces 16 départements concernés, décrypte un proche du Premier ministre. Cette communication, elle sera principalement dévoilée sur les réseaux sociaux et dans la presse. 11 nouvelles tables de la loi, par exemple, ne pas recevoir chez soi, ne pas aller chez les autres, télétravailler sauf si c'est impossible, ne pas sortir après 19h. 11 commandements qui visent à rappeler qu'il faut une attestation au-delà d'un déplacement de 10 km ou bien qu'il est interdit de quitter son département sauf motif impérieux. Réexpliquer, simplifier, voilà l'ambition de Matignon qui espère ainsi retrouver la confiance et l'adhésion des Français. Tout en faisant comprendre, en quelques mots, ce qu'il n'a pas su expliquer jeudi dernier.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Une vente majeure tout à l'heure chez Christie's pour le marché de l'art à Hong Kong. Un chef-d'œuvre de Basquiat, l'enfant terrible du street art.
Et Basquiat qui était aussi le disciple d'Andy Warhol. Guerrier, c'est le titre de cette peinture sur bois. Estimé entre 31 et 41 millions de dollars, le plus haut montant aux enchères jamais atteint pour un artiste occidental vendu en Asie. Olivier Salon est spécialiste de l'art contemporain chez Christie's.
Basquiat est vraiment une espèce de figure mythique aujourd'hui pour l'art contemporain. Tout combine pour que cette œuvre soit vraiment une peinture extrêmement remarquée par le marché de l'art aujourd'hui. Vous avez cette figure centrale de guerrier très affirmé qui est aussi une forme aussi d'allégorie de l'artiste lui-même qui part un peu en guerre comme ça pour se faire reconnaître, une forme d'autoportrait déguisé si on veut. Cette figure noire centrale qui est extrêmement puissante dans la façon dont il utilise la peinture, le crayon gras, les sprays. Et évidemment, c'est pas anodin que si sa figure centrale est noire, c'est évidemment aussi une forme d'affirmation extrêmement forte de sa propre identité.
Des propos recueillis par Diane Chenouda. Et puis on va finir ce journal sur une note de détente. On inspire et on écoute.
On peut expirer ?
Vous pouvez écouter une rivière qui coule ou le chant des oiseaux, bref, les sons de la nature, eh bien c'est très bon pour notre santé. Une étude canadienne a quantifié les bénéfices d'un environnement acoustique naturel sur notre morale, nos performances cognitives, mais aussi nos stress et notre sensibilité à la douleur. Et les chercheurs notent une amélioration de 184% de la santé générale. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.
Moi je vais raconter ce qui vient de se passer hors antenne. J'ai demandé en régie, c'est quoi comme oiseau ce qu'on entend? C'est un truc bien.
Effectivement.
Donc les auditeurs qui reconnaissent l'oiseau peuvent m'aider sur le hashtag Europe 1.
Oui peut-être, aider-tu à trouver l'oiseau.
Parce qu'on aurait pu...
Mais ça détend.
Ça marche avec tous les oiseaux?
Peut-être pas la mouette, non.
Le corbeau, corneille.
On va essayer.
La chouette, ça marche bien. Merci beaucoup et je vous demande pas si ça marche avec toutes les rivières. Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Elisabeth Moreno, à 8h15, ce matin sur Europe 1. Notez le rendez-vous, c'est la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes en plein débat sur le sexisme, voire les violences sexuelles commises par des journalistes sur des journalistes femmes dans les rédactions sport. C'est l'interview de Sonia Mabrouk tout à l'heure. Dans un instant, inspiration et reconversion avec l'ancien champion du monde de roller, Tyke Chris, entrepreneur aujourd'hui invité du tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy.
Bonjour Mathieu, ce matin on booste notre ego avec l'avocat Juan Branco.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, ou plutôt devrais-je dire l'enfant terrible de la rue des Cévennes, l'élu rebelle du quai André Citroën. Ce matin, je vous parle du seul, de l'unique, celui qui affiche fièrement, en quatrième de couverture de son dernier livre, le surnom dont Paris Match l'avait affublé. L'ange noir de Saint-Germain-des-Prés. Non, il ne s'agit pas de Juliette Gréco, mais de l'avocat Juan Branco, le séraphin du Café de Flore, le chérubin apocalyptique des deux magots, et de retour en librairie avec Abattre l'ennemi, un manifeste politique qui sortira vendredi. Et depuis quelques heures, c'est la quatrième de couverture qui fait beaucoup parler. Une présentation tout en nuances. On sent qu'après plusieurs propositions refusé par Juan Branco, l'éditeur a fini par lui dire « Bon, tu sais quoi, écris-la toi-même, ta lettre de recommandation, puis on la signera nous. Hein. » Résultat, enfant chéri de la République passé par l'ENS, Yel, le quai d'Orsay, fréquentant oligarque et dirigeant, Juan Branco décide à 26 ans de tourner le dos au lieu de pouvoir qu'il l'avait accueilli pour s'allier au plus important dissident de notre temps. Il devient l'une des figures principales de l'opposition à Emmanuel Macron avec Crépuscule, un ouvrage qui le fait connaître dans tout le pays. Comme vous dites, oui, c'est plus l'ange noir de Saint-Germain, là c'est le saint patron de Cavaillon. Quand on lit ça, on se sent tout petit. On a fait quoi dans nos vies à côté de lui? On est des cloportes à côté de l'ange noir de Saint-Germain. Vous par exemple Mathieu, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Vous avez fait partie d'un groupe de rock amateur, vous avez monté une étage Ikea tout seul et une fois vous avez rentré une clé USB dans le bon sens du premier coup, c'est pas dingue. Après, tout est une question de mise en forme, comment il sublimerait ça Juan Branco? Fils prodigue du rock, il balait pourtant d'un revers de la main le destin à la Mick Jagger que ses pères lui prêtaient. À 25 ans, il se consacre à la construction d'une imposante structure hommage à l'architecture suédoise. C'est la commode Billy Ikea. Petit génie de l'informatique, il déjoue avec une déconcertante aisance les pièges de la technologie, clé USB. Désormais guide suprême des aurores, il est maître des horloges et sa voix résonne dans le monde entier. Oui, Europe 1 est dispo en podcast partout si on veut, et puis vous donnez l'heure parfois dans la matinale.
Ça marche beaucoup. Ouais.
Ah, ça marche bien en fait. Alors si vous aussi vous aimeriez croire en vous autant que Juan Branco croit en lui, essayez ce produit. Vous doutez de vous, votre estime de vous frôle le néant, alors testez Juanito 3000. Grâce à ses principes actifs de melonite et de narcissoïde, Juanito 3000 et son efficacité cliniquement prouvée boostent votre ego en moins de 30 minutes. Ah, je suis vraiment le meilleur, le champion des champions. Juanito 3000 et la confiance en vous revient. Attention, ne pas cumuler avec du Raoult, risque de surdose et d'explosion des chevilles. Juanito 3000, buvez, enflez. J'en ai laissé sur votre bureau, Mathieu. Alors, bonne journée à vous. La terreur de Javel.
C'est la touche âme de Bertrand Chameroy. L'avantage quand vous avez un copain comme Bertrand, c'est que vous avez plusieurs amis. Vous êtes sûr combien vous êtes dans votre tête. Bertrand Chameroy qu'on retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel dans Culture Média. 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
C'est perdu d'avance, c'est ce qu'on a dû dire à mon invité qui se lance à l'assaut des GAFA, l'ancien champion de roller, Tyke Chris, qui lance un projet européen de réseau social. Il assume vouloir concurrencer les géants américains ou chinois avec un discours presque politique, vous allez l'entendre. Son entreprise et sa reconversion, un peu d'inspiration ce matin. Tyke Chris est mon invité.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour, t'es Chris.
Bonjour.
Triple champion du monde, les X Games, les Gravity Games, plein de records.
Exactement.
Alors en fait, il n'y a pas besoin de s'y connaître. Je sais que tout le monde n'est pas expert en roller, mais il n'y a pas besoin de s'y connaître pour comprendre que c'est un sacré palmarès. Mais pour ceux qui ne vous remettraient pas, voilà votre record de saut dans le vide en mai 2010.
Je voulais avoir la certitude de prouver à tout le monde que je pouvais le faire. Je le réussis. Et donc c'est pour ça que je voulais absolument avoir mon deuxième essai pour tomber sur mes patins, et c'est ce que j'ai fait.
Félicitations, le record a été battu.
Vous veniez de sauter le premier étage de la Tour Eiffel.
Exactement.
Bon. Ouais. Alors aujourd'hui, si on veut le dire simplement, vous vous présentez comme sportif et entrepreneur.
Oui, en fait, j'ai vraiment fait la reconversion. Je voulais pas rester dans le sport, même de toute façon, le sport, au bout d'un certain moment, on peut plus le faire. Mais je voulais pas avoir uniquement cette casquette. Et donc, je me suis reconverti dans la tech depuis 6 ans maintenant. Et voilà, et j'avance et je travaille.
Et alors, vous vous dites qu'il y a de la place pour vous, oui, vous, entre des géants, GAFA, pour une aventure européenne. Album, cette application d'album photo que vous lancez. On choisit à qui on les partage, si j'ai bien suivi. Et
exactement. Alors en fait, c'est pas qu'il y a de la place spécialement pour moi, c'est que je trouve que c'est quand même délirant que personne se soit dit qu'il faut qu'on arrive à créer des réseaux sociaux français et européens. La data du monde aujourd'hui est détenue par les Américains et par le monde, c'est quand même dingue. Donc je tente ma chance. Je dis pas que c'est moi qui vais y arriver particulièrement, mais j'espère que ça va créer une dynamique pour que les investisseurs, les politiques, etc. comprennent qu'il faut vraiment soutenir à fond des entrepreneurs pour faire ce genre de produit.
Alors, donc, je voulais parler justement de ce côté politique, mais d'abord simplement l'application Album, on est entre Instagram et WhatsApp,
voilà,
c'est ça ?
Alors l'application, elle est toute bête. Alors déjà, juste pour faire un petit rappel, la première application que j'avais créée il y a 5 ans, c'était une application de téléphonie qui s'appelait On-Off, qui permettait d'avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable. Cette application a vraiment beaucoup de succès parce qu'on est 60 aujourd'hui, la boîte, elle est rentable, j'ai levé 20 millions d'euros, etc.
Ça a bien marché pendant le confinement en particulier. On s'est rendu compte qu'on manquait peut-être de plein de choses, mais de numéros de téléphone aussi.
Voilà, exactement. Et cette boîte, du coup, c'est super. Elle grandit énormément. Et là, donc, j'en lance une deuxième. C'est l'application Album. L'application Album, c'est tout con. C'est des albums collaboratifs entre potes. En fait, j'ai réalisé qu'on avait tous des milliers de photos et vidéos qui dormaient dans nos téléphones, qu'on n'avait pas envie de mettre sur Instagram parce que c'était des photos plus privées. Instagram est devenu la représentation publique de nos vies. Et aujourd'hui, ces photos, quand on les envoie à nos potes, on les envoie dans des conversations WhatsApp et ça se mélange dans la conversation et en plus la qualité est baissée. Et donc, Album n'a pas réinventé la roue, mais j'ai juste résolu un problème un peu mieux fait que les autres, c'est en faisant des albums collaboratifs totalement sécurisés entre potes. Donc, vous partez au ski avec les potes, vous faites un album ski, un album pour vos parents, un album pour votre copain ou
votre
copine.
Et vous choisissez qui y a accès, y compris qui y a accès dans le temps. Est-ce qu'on peut y accéder 5 minutes, 30
minutes ?
Voilà,
on donne beaucoup plus de fonctionnalités que ce que fait en tout cas ce que font les autres applications. On peut donner un accès, comme vous dites, temporaire, mais même un accès collaboratif.
Mais alors, t'as écrit, vous vivez de quoi ? Parce que vous promettez sécurité et respect de la vie privée, respect des données personnelles, sans la publicité qui se fait avec les données personnelles. Vous vivez de quoi ?
Alors, nous, on a 3 business models. De toute façon, on est au début de l'application et elle va énormément grandir. Mais au-delà même des business models que je vais vous expliquer, moi, j'ai des valeurs que je vais essayer de garder et c'est pour ça que j'incarne ce produit et que je suis le président de cette boîte, c'est que vraiment, je m'engage à vraiment préserver la vie privée des gens. Je pense que les photos et vidéos, c'est extrêmement important. Et sur les business models, le premier, c'est qu'on va vendre du stockage. On ne va pas pouvoir donner gratuitement 30 téras à tout le monde. Donc, les gens achèteront du stockage comme sur un iCloud. Le deuxième business model, c'est qu'ils pourront imprimer leurs albums et les recevoir à la maison en version papier. Et donc là, c'est génial. Comme je disais, vous partez au ski, chacun reçoit son album physique des vacances à la maison en 3 clics. Et le troisième business model, c'est qu'il y aura un moment de la pub, sûrement, ça sera difficile à mon avis d'y échapper, mais non seulement les pubs seront extrêmement qualitatifs un peu à l'Instagram, mais on en fournira un système un peu à la Spotify. C'est-à-dire que si les gens veulent un système gratuit, et bien là, il y aura de la pub qui se mettra entre leurs photos et leurs vidéos. Mais s'ils veulent ne pas avoir de pub, ils paieront un petit abonnement par mois, comme Spotify. Et là, il n'y aura jamais de pub.
Spotify qui vous fait peut-être un peu rêver aujourd'hui, puisque c'est le seul Européen à avoir atteint ce statut-là.
Exactement.
Alors, je voudrais reparler de géopolitique, des données et des réseaux sociaux. Mais vous estimez que cette question des données personnelles est si importante qu'elle vaut de payer un abonnement ?
Mais oui, parce que c'est même pas côté c'est même pas parce que c'est payer un abonnement. C'est que si vous réfléchissez bien, nos photos et nos vidéos, c'est ce qu'on a de plus privé au monde. Et aujourd'hui, elles sont non seulement sur des serveurs américains, elles sont analysées, elles sont vues dans tous les sens. Moi, personnellement, j'aurais aucun problème à payer 5 euros par mois pour avoir mes photos et vidéos en haute résolution, sans jamais perdre la qualité et pouvoir les partager à qui je veux en étant totalement sécurisé, où je sais en plus que mes photos ne seront pas analysées.
Et alors vous me faites la transition parfaite, vous estimez, il y a un vrai discours politique dans ce que vous dites, vous estimez qu'il faut se protéger de Google et de Facebook.
Alors, ils ont fait des choses incroyables et je ne suis pas spécialement contre eux, mais je trouve délirant qu'en France et en Europe, les investisseurs, les politiques n'ont pas compris la puissance politique qu'il y a derrière les réseaux sociaux, parce que si vous réalisez bien, quand je suis pas du tout pro-Trump, mais dernièrement, une boîte privée a quand même supprimé la voix d'un président en exercice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aux prochaines élections françaises, si les GAFA n'aiment pas un de nos candidats, ils peuvent le supprimer de la scène médiatique en un clic, sans qu'on ait rien à dire.
Il faut en avoir conscience, si Facebook décide de boycotter, ou Google, de boycotter un candidat à la présidentielle française, il l'élimine.
Il l'élimine totalement, il n'existe plus. Donc c'est-à-dire, et si vous voulez, la bataille qui gagne aujourd'hui, qu'ils ont gagné, et c'est une bataille qu'ils ont gagnée pour les 100 prochaines années. C'est de plus en plus dur de créer un réseau social
parce qu'ils sont énormes, dès
qu'il y en a un qui a pris une case très spécifique. Twitter a pris la case des messages très courts qui veulent dire, voilà, c'est difficile de les contrer.
Et alors, parce qu'on aurait pu parler tout le long de cette application, mais votre discours est intéressant sur ce point-là des réseaux sociaux. Les Chinois et les Russes, par exemple, quand ils ont bloqué Facebook et Google, on a tous poussé des cris d'orfraie d'atteinte à la démocratie, mais vous dites, au final, ils se protègent.
Oui, moi, je veux dire, ils le font d'une façon extrême, et c'est vrai qu'on peut dire que c'est pas très très éthique, pas très ouvert vers le monde, mais dans un sens, nous, on est un peu les dindons de la VAR, c'est-à-dire qu'on essaye d'ouvrir, d'être extrêmement éthique, extrêmement droit par rapport à ça, et on se fait manger complètement dans notre industrie. Quand on regarde même avec le cinéma, aujourd'hui, les Américains ont réussi à faire tous ces films incroyables et donc ils font la promotion de la culture américaine à travers ça, et je suis pas du tout contre les Américains, je les trouve extraordinaires. J'ai vécu aux États-Unis des années.
Il faut plutôt construire chez nous, qu'on soit
meilleur nous-mêmes.
Et je savais qu'on pourrait justement développer ces questions-là en parlant de votre application que vous avez lancée il y a une semaine. Vous donnez pas encore de chiffres de téléchargement de l'appli.
Non, je les communique pas. Album. Mais l'application est téléchargeable sur l'Apple Store et Google Store ou sur notre site internet qui est album au pluriel.app. Mais surtout, je donne un message aux gens. Moi, j'ai envie de créer la meilleure app de partage de photos entre personnes, et donc j'ai besoin que les gens me donnent leur feedback pour constamment l'améliorer. Donc testez-la, utilisez-la
et
renvoyez-moi les feedbacks
auprès de
pour qu'elle soit améliorée.
Merci beaucoup.
Merci.
Taïk Riz, champion du monde de roller, multiple champion du monde, les records, on en a parlé, et entrepreneur. Bonne chance dans votre projet les GAFA, mine de rien. Hop. Avec, en mettant des guillemets évidemment. Taïk Riz, merci beaucoup. 7h51 sur Europe 1.
Merci bien.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans quelques toutes petites secondes, l'édito politique, Nicolas Bétou, avant de retrouver Nicolas Canteloup sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
Plus la crise sanitaire dure, plus l'épargne des Français grossit. Et plus le débat politique sur l'utilisation de cet argent s'amplifie.
Des sommes absolument considérables, hein, puisqu'on les évalue maintenant à peut-être 200 milliards d'euros. Bon, évidemment, réinjectés dans l'économie, ces milliards provoqueraient un formidable bond de croissance.
Alors, sauf que pour l'instant, cette épargne est bloquée, au moins tant que les Français ne seront pas rassurés sur la crise sanitaire.
C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Mais ça n'empêche pas de réfléchir à des moyens de débloquer ce magot. Et une cagnotte pareille, évidemment, ça fait rêver. Des rêves de toutes les couleurs d'ailleurs. Hein. Rose, par exemple. Rose comme socialiste, à gauche. On soutient que cette épargne doit être taxée, par exemple au moyen d'une contribution exceptionnelle Covid. En face, côté les Républicains, on rêve plutôt de le détaxer cet argent, à condition qu'il soit transmis.
Plusieurs députés LR ont effectivement proposé de favoriser les donations aux enfants ou aux petits-enfants.
Idée partagée par de nombreux députés En Marche et ardemment soutenu par Bruno Le Maire. Avec un argument imparable, cet argent est bloqué, inerte, mieux vaut le donner aux jeunes qui ont des difficultés à cause du Covid. Eux au moins sauront tout de suite comment utiliser cet argent.
Alors, sauf que ce n'est pas si simple politiquement.
Et non, la gauche a immédiatement dénoncé ce cadeau, non pas aux riches, mais des riches. Boris Vallaud, député socialiste des Landes, déjà à la pointe du combat pour rétablir l'ISF, reproche à la majorité de refuser le RSA jeune et de préférer l'héritage. Bon, c'est ça qui est formidable. Dès qu'on parle épargne ou cagnotte, le monde politique se divise immédiatement en deux camps. Ceux qui veulent plus d'impôts et ceux qui n'en veulent pas ou pas davantage, sachant que la France est déjà un des pays les plus taxés au monde. Ceux qui pensent que donner même une somme modeste à ses enfants ou ses petits-enfants, c'est un truc de riche, et ceux qui y voient plutôt un moyen d'aider une génération pas toujours très favorisée. Parce que c'est un fait, entrer dans la vie pour un jeune est de plus en plus coûteux. Accéder à un logement est de plus en plus lourd dans un budget, et face à ça, l'espérance de vie fait que les héritages, ben oui, ils sont de plus en plus tardifs. Faire circuler l'argent plus tôt dans les familles, c'est donc vraiment vertueux.
Et ça va se faire ?
Alors, il n'y a pas de meilleure occasion que cette fenêtre liée au Covid et à tous ces bas de laine bien remplis. Bruno Le Maire semble très déterminé et peut-être qu'il faudra attendre d'être vraiment en sortie de crise. Mais à un an de la présidentielle, ce sera un bon test de la solidité politique de la majorité sur ce sujet tellement clivant. Les impôts.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins sur Europe 1 avant 8h. Et tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Et on parle beaucoup depuis 48 heures de l'affaire Pierre Ménès. C'est Nelson Montfort qui est avec nous ce matin. Bonjour Nelson. Ouais.
Oui, bonjour. Malheureusement, je ne peux pas trop vous aider. Je ne peux pas vous répondre. Je ne connais pas du tout ce Pierre Ménès. Mais en tout cas, peut-être nous avons une chance, car Pierre Fula est à mes côtés. Pierre, mon cher Pierre, tu connais un certain Pierre Ménès, toi ?
Écoute, non, pas du tout. Je dois dire, j'étais en poste à Nagano, je n'ai jamais rencontré ce monsieur.
Alors, attendez, nous avons Didier Deschamps qui est invité à France Télévisions ce matin. Didier, connaissez-vous Pierre Ménès, monsieur foot de Canal Plus ?
Non, là, vous me prenez au dépourvu. Hein. Non, j'ai jamais entendu parler de ce monsieur Bernard Ménès. Non, personne ne le connaît, surtout depuis 48 heures. Hein.
Non, c'est Pierre Ménès, pas Bernard Ménès. C'est Madame Moreno qui va sûrement aborder le sujet à 8h15.
Morano ! Nadine Morano, c'est mon nom. Mes mères, mais bossez vos dossiers, Béliard. Elle va m'entendre là-bas, Brooke, je peux vous dire surmonter.
Non, pardon, Nadine Morano, ce n'est pas vous qui êtes invitée ce matin, c'est Elisabeth Moreno. Moreno, la ministre chargée de l'égalité.
Mais allez, ça m'aurait étonné d'être invitée sur votre radio de gauchiste. Hein, bon, mais je me casse. De toute façon, j'ai rendez-vous avec mon Pascal Pro sur l'heure des pros. Tiens, venez faire un tour, monsieur Bétou. Ils ont jamais vu un gars autant à gauche que vous sur l'émission.
C'est signé, c'est un florilège ce matin. Nicolas Canteloup, que l'on retrouve à 8h45 pour la revue de presque. Vous êtes sur Europe 1 et Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Oui, alors on va résumer. On m'a demandé d'être concis et précis. Il fait froid, il fera doux. Il y a un peu de brouillard, il fera beau. Stop.
C'est efficace. C'est efficace.
Il fera beau partout, j'en ai mis. Profitez-en. Allez.
Et demain, c'est la plus belle journée de la semaine. Ouais, j'ajoute. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. On écoute le monde changer.